Bonsoir Michel Onfray.
Bonsoir Jean.
Il y a 10 ans, vous produisiez une première tétralogie, qui n'est pas wagnérienne, hein, mais composée de Cosmos, Sagesse, Décadence et Anima. Et vous revenez aujourd'hui avec le premier volume d'une histoire philosophique de l'Occident, prévu pour en compter 4. J'ai ici la présentation par votre éditeur, Albin Michel. L'objet de ce cycle est de raconter la vie et la mort des grandes idées qui ont forgé l'Occident en tant que civilisation. On a discuté tout à l'heure, vous allez nous expliquer quelle est l'origine de ce projet, qui est évidemment extrêmement ambitieux. Le premier tome, c'est celui que nous allons évoquer ce soir, « Déambulation dans les ruines ». Il est prévu, il sort maintenant, et les trois autres tomes, si j'ai bien vu, le calendrier de l'éditeur, septembre 26, construction d'une cathédrale, septembre 27, édification d'un temple, septembre 28, profanation d'un cénotaphe. Et à chaque fois, évidemment, on est confronté à cette approche qui est extrêmement intelligente, et on va comprendre tout de suite pourquoi, puisque la structure du livre, de vos livres, consiste à balayer des notions essentielles de la philosophie, telles que les principes, la réalité, le bonheur, le plaisir, le suicide, la vérité, sous la forme à chaque fois de 2 chapitres. Alors, il y a 12 chapitres, vous nous direz si c'est un hasard. Ce chiffre, mais vous connaissant, ça m'étonnera. Et par exemple, à chaque fois, donc nous avons, on pourrait presque dire une dispute au sens de la dispute philosophique, avec des oppositions entre 2 figures philosophiques différentes. Par exemple, pour les principes, eh bien, c'est d'une certaine manière, ça tombait sous le sens. Mais enfin, moi, je me dis toujours. Il y a des choses qui paraissent évidentes, il faut des fois y penser. Hein. Et bien là, vous opposez Héraclite, la pensée du flux, la pensée du fleuve, etc. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Alors, ce sont bien sûr les fragments, hein, c'est la particularité d'Héraclite. Et puis Parménide, penseur de l'ontologie, c'est-à-dire de l'être et de la fixité. Voilà. Et ce que vous appelez d'ailleurs la dynamique des diades au début de votre livre. Alors, c'est un vrai plaisir de retrouver Michel Onfray en historien de la philosophie et surtout en très grand pédagogue, ce que vous êtes fondamentalement. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce projet je n'ose dire Prométhée, hein, mais...
Oui, il l'est un peu, vous avez raison. Et... J'annonce 4 volumes pour ne pas faire peur à mon éditeur, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus que ça. J'avais annoncé 4 volumes pour la contre-histoire, il y en a eu, je crois, 14. Et donc, j'ai commencé le 2e tome, et là, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais je suis à plus de 200 000 signes, et je suis à, je sais pas, peut-être un 15e ou un 20e du livre. Donc, ça va faire des dictionnaires, et il est bien évident que plus le temps passe, enfin, plus j'avance dans le temps, disons, de mes livres, et plus effectivement les informations sont importantes, donc plus on peut faire de livres. Pour le 20e siècle, il y a abondance d'informations, donc on pourrait peut-être faire 4 ou 5 volumes pour le 20e siècle. Enfin bon, je ne m'engage pas là-dessus. Je voulais dire à ceux qui nous font savoir que le judéo-christianisme n'existe pas, que la civilisation judéo-chrétienne n'existe pas, qu'elle existe bien, qu'elle a une date de naissance, peut-être une date de décès annoncée également.
Vous avez même, pardon Michel, vous avez parodié un titre célèbre. L'Occident existe, je l'ai rencontré. Oui, oui. Bon, le titre célèbre, c'est Dieu. Hein,
c'est ma première phrase. et je dis, je suis en train de le voir disparaître sous mes yeux. Et de fait, je suis sidéré. Il y a une historienne dont je me suis empressé d'oublier le nom, qui a écrit un livre dont le titre est, je crois, que je me suis même empressé d'oublier le titre, mais l'imposture judéo-chrétienne. C'est une imposture judéo-chrétienne. Alors, on peut ne pas aimer, on peut dire plein de choses, mais une imposture. La posture de la vérité judéo-chrétienne, ça me sidère assez. Donc évidemment, je voulais voir comment la civilisation se constitue. Moi, j'ai J'ai lu avec beaucoup de passion Hegel quand j'avais une vingtaine d'années, et les leçons sur l'histoire de la philosophie, sur la philosophie de l'histoire, l'histoire de la philosophie aussi, mais la raison dans l'histoire, qui sont des textes où d'un seul coup, Hegel nous raconte une grande fresque en expliquant comment fonctionnent les civilisations, comment elles se remplacent, etc. Enfin, j'ai été sidéré par ça et convaincu, d'ailleurs, donc il y a très longtemps. J'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler, qui est connu pour un titre que tout le monde a lu, et ce qui n'est pas le cas du livre, que peu ont lu, même ceux qui citent le titre, et qui est Le déclin de l'Occident, et qui donne une... On parle d'une morphologie de l'histoire, c'est-à-dire, je ne suis pas marxiste, je n'ai jamais été, et les marxistes pensent qu'il y a un sens de l'histoire, et que la réalisation de l'histoire abolira un jour l'histoire, etc. Moi, je ne le pense pas, je suis très nietzschéen là-dessus, je pense qu'il y a des tensions, et qu'il y a des résolutions de tensions. Donc, en fait... vous avez parlé de Diade tout à l'heure, ça, c'était a priori le titre. Le premier titre, c'était Polémos, mais ça a fait peur à mon éditeur. C'était du grec, qu'il a pris... Enfin, pas mon éditeur, mais un autre a pris ça pour du latin.
Il y avait des réclamations de la famille Boutoul.
Non, parce qu'en fait, personne ne connaît Gaston Boutoul, personne ne sait qu'il a inventé la polémologie, personne, etc. Vous et quelques-uns de nos amis, probablement. Mais la polémologie est une discipline extrêmement intéressante. Il a même créé une autre discipline qui est encore plus intéressante, qui est l'irénologie, qui est la science de la paix. On ne parle pas assez de Gaston Boutoul, vous avez raison. Et je ne suis pas sûr que la famille Boutoul m'aurait reproché l'usage d'un mot grec.
Clairement, la parenthèse.
Qui appartient à peu près à tout le monde. Et donc... a priori, ça pouvait être aussi diade, c'est-à-dire une opposition. Là aussi, ma façon de montrer que je ne suis pas marxiste, on sait que le marxisme est un hegelianisme et que l'hegelianisme, c'est une dialectique en trois temps. La fameuse thèse, antithèse, synthèse. Mon vieux maître Gerfagnon, dont nous parlions tout à l'heure, disait thèse, antithèse, foutaise. Mais donc, moi, je pense effectivement qu'il y a une résolution de tension et que les résolutions de tension, elles supposent qu'il y ait des combats historiques et que la révolution se trouve tranchée par un moment historique, un moment qui peut prendre le nom de Constantin, par exemple, l'empereur, qui va trancher en disant « la vérité, c'est ça, les principes, c'est ça, etc. etc. » Vous me demandiez aussi d'où venait ce livre. En fait, il vient d'un désir, d'un vieux désir que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, de reprendre l'université populaire de Caen, qui m'a été interdite par des élus, un élu, en l'occurrence, qui était le maire de Caen à l'époque, et qui m'a interdit, en gros, un amphithéâtre, puisqu'il y avait 1200 personnes à chacun de mes cours, donc plus d'amphithéâtre. France Culture, ayant décidé de ne plus diffuser mes cours, je me retrouvais quasiment à la rue. Mais j'ai toujours gardé en moi le désir de transmettre et de ne pas thésauriser en disant « j'ai un capital personnel, à quoi ça sert d'avoir un capital culturel si on ne le partage pas, si on ne le distribue pas ?» Et puis, vous m'avez fait l'amitié de dire que j'essayais d'être pédagogue et j'aime ça. J'ai transmettre et donner à disposition de plus grand nombre et éventuellement des gens les plus modestes. J'ai été 20 ans prof dans un lycée technique, sciemment, pour avoir ces élèves-là et pas d'autres. Et j'ai voulu recréer cette université populaire dans mon village natal, à Chambois, dans l'Orne. Et j'avais commencé à acheter un bâtiment. On avait commencé à travailler avec un architecte pour pouvoir faire un amphithéâtre. Avec un ami, créer un restaurant, faire avec un autre ami, libraire de livres anciens, de faire une bibliothèque à disposition des enfants du village et puis de tous ceux qui voudraient venir, etc. etc. Et là encore, j'ai rencontré des édiles qui se sont débrouillés pour que je ne puisse pas exister physiquement. Donc, qui ont fini, après m'avoir fait dépenser de l'argent, et de l'argent personnel pour le coup, qui ont fini par me dire « vous n'avez pas le permis de construire, ça n'aura donc pas lieu ». Sauf que moi, j'avais commencé à rédiger mon cours. Et c'était le cours que j'avais prévu pour cette université populaire qui n'aura pas lieu. Elle aura lieu autrement, sur le net, bon, c'est ainsi. Et donc, au départ, je voulais écrire cette histoire de la philosophie, cette histoire de l'Occident à partir de la philosophie, en faisant de telle sorte que chacun puisse se retrouver dans ce que j'aurais enseigné. Vous avez par exemple pris tout à l'heure l'opposition Héraclite et Parménide. Alors, on parle des fragments, mais il reste des fragments. C'est-à-dire, jamais Héraclite ne s'est manifesté en disant « j'écris des fragments ». Il a écrit un immense poème, et il nous reste des fragments de ce poème. C'est la même chose avec Parménide. C'est-à-dire que le fragment n'a pas été choisi comme un mode d'expression. C'était un très grand poème. Et donc, on connaît cette phrase célèbre du « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous descendez dans la rivière de mon village, qui est un fleuve, puisque c'est une rivière qui se jette dans la mer, eh bien, vous y descendez, le lendemain, vous pouvez y descendre, mais ce ne sera pas la même eau, ce sera le même fleuve, mais ce ne sera pas le même fleuve. Et c'est donc une pensée du flux qui nous dit « tout passe, tout change ». Chaque instant ne se répète pas. Ce qui vient par la suite, c'est un autre instant qui n'est pas répétition. Il y a simplement un flux perpétuel. Et donc, il invente la dialectique, Héraclite. Et Parménide nous dit « le réel, c'est une sphère, sans entrée, sans sortie, perfection totale, etc. » Donc, j'oppose la sphère au fleuve et en disant, mais et vous, est-ce que vous êtes un tenant du fleuve? Est-ce que vous pensez que tout passe et que l'essentiel, que seul demeure ce qui ne demeure pas? Mm-hmm. Ou est-ce que vous pensez que le réel est une espèce de sphère dans sa perfection, que cette sphère est une espèce d'idée, qu'elle est identifiable à Dieu, etc. Et donc, je dis etc. parce qu'on pourrait passer l'heure là-dessus. C'était prévu, d'ailleurs, que tu puisses passer au moins une heure sur chacun. Mais chacun, quelque part, vous tous, vous êtes soit héraclitéen, soit parménidien. Alors évidemment, c'est plus clair quand on prend une opposition, le célibat ou le mariage. Si vous dites, par exemple, que des femmes pythagoriciennes, théano, périctionnées, dont on parle assez peu, d'ailleurs, ont développé une pensée qui est... Alors, pour le coup, la pensée du... la femme, elle est faite pour faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, il faut qu'elle soit belle, gentille, jolie, qu'elle obéisse au mari, etc. C'est la pensée, la pensée très peu féministe des pythagoriciens. Et donc, évidemment, il y a un éloge du mariage chez les pythagoriciens. Le mariage, la famille, etc. Et puis, en face, je mets les cyniques grecs, Cratès, Hipparchia ou Diogène, qui, eux, estimaient que l'amour devait être libre, qu'on pouvait copuler sur la place publique, qu'après tout, chacun se masturbe chez soi, dans l'intimité du chez-soi, pourquoi pas sur la place publique, et qui, eux, disaient, le célibat, il y a à peu près que ça de vrai, et puis même si on devait se marier, Cratès et Hipparchia, dans le mariage, on doit pouvoir conserver sa liberté, etc. Chacun et se retrouve dans cette logique. Êtes-vous pythagoricien? Êtes-vous cynique au sens grec du terme? Etc., etc. C'est-à-dire, sur chacun des chapitres, j'ai voulu que chaque auditeur puisse être concerné. Vous voyez que je ne dis pas auditeur et auditrice, hein, que volontairement, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, parce que j'ai été élevé à cette grammaire-là. Et pour faire de telle sorte que chacun puisse se dire, eh bien, oui, moi, je suis plutôt ici, plutôt là, etc. Et donc, j'ai pris les Grecs, les Romains, en disant, il y a un bloc gréco-romain. J'ai posé un certain nombre de philosophes, de philosophies et de penseurs, et mon souhait a été de ne parler qu'une fois d'un philosophe. C'est-à-dire, si je parle une fois de Platon, évidemment, j'ai opposé Platon et ses idées à Démocrite et à l'atome. Est-ce que vous êtes idéaliste ou est-ce que vous êtes matérialiste? Si j'ai parlé une fois de Platon sur les idées, je ne peux pas en parler sur un autre sujet, par exemple, la critique du suicide. On en reparlera peut-être, puisque vous m'avez fait l'amitié de me dire qu'on parlerait du livre de Job. Et donc, j'ai souhaité que chacun apparaisse au moins une fois, parfois peut-être sur des terrains méconnus, parce qu'on parle souvent des mêmes idées avec
Michel, il y a un chapitre qui est passionnant, la nourriture.
Oui.
Le cannibalisme, les délices de la chair humaine, ça c'est des fragments de Diogène.
Oui. Hein,
et puis, ou le végétarisme, la religion du légume. Oui. Ça c'est pas de Sandrine Rousseau, hein, c'est de l'abstinence de Porphyre.
Non, parce qu'il n'y a pas de raison, comme, non, mais comme
vous faites aussi des entrées dans la...
Non, mais vous avez raison, parce que par exemple, quand Sandrine Rousseau arrive à la télévision en faisant une critique du beefsteak, enfin de la côte de bœuf, alors, j'allais dire, elle ne sait pas, je n'en sais rien.
Elle est plutôt du côté de Porphyre.
Elle est du côté de Porphyre. J'allais dire, je ne sais pas si elle sait, je ne sais pas, je connais pas cette
part.
Mais pourquoi pas? Et Porphyre nous dit pourquoi il faut être végétarien. Et un végétarien contemporain reprend très exactement les argumentations de
Porphyre. C'est plus surprenant sur les délices de la chair humaine du côté de Diogène, même si on sait que Diogène, effectivement, vivait avec les chiens, mais enfin bon.
Alors il dit, il faut ensauvager la nature, Diogène. Quand je parlais tout à l'heure de masturbation, de copulation sur la place publique, il dit en gros, on est trop civilisé. Il faut déciviliser. Et donc, Claude Lévi-Strauss a écrit des très belles pages sur le cru et le cuit, en disant que les animaux mangent cru, évidemment, et les humains cuisent. Alors sauf quand on mange du tartare, mais a priori, la cuisson est un geste culturel. Et donc, il va très loin dans la décivilisation, je dirais, si on peut me permettre l'expression, Diogène, puisqu'il nous dit en gros qu'on doit pouvoir manger de la chair crue et de la chair vivante, ce qu'on appelle l'homophagie. C'est-à-dire, en fait, l'homophagie, quand on mange des huîtres, nous, par exemple, on avale une huître, et quand on gobe une huître, elle a 20 minutes d'espérance de vie dans l'estomac, mais on mange du vivant. Eh bien, on peut manger du vivant. Alors là, vous découpez de la bidoche sur un animal qui est vivant et vous mangez comme ça. Vous mangez de la chair, de la chair sans la cuire. Et puis, vous pouvez aussi manger du cadavre. Et c'est ce que dit Diogène. Il dit, après tout, on peut manger aussi de la chair humaine. La chair humaine, elle est constituée d'atomes, comme nous sommes constitués d'atomes, comme l'ensemble du réel. Ça n'est jamais qu'une circulation d'atomes, donc rien ne nous interdit de manger de la chair humaine. Et on dit de Diogène, il a plusieurs morts possibles. Hein. On dit qu'à un moment donné, il se retient de respirer. Il en a tellement marre qu'il se suicide en se retenant de respirer. Il a, vous l'avez dit, pris modèle sur les chiens, en disant, mais regardez les chiens, il faut se comporter comme eux. Quand ils ont envie de copuler, ils le font. Quand ils ont envie de pisser sur la place publique, ils le font. Ils mordent la main des gens qui les nourrissent, etc. Il dit, le modèle, c'est le chien. Et lui, avec ses amis, se réunissait au Cynosarge, c'est-à-dire le cimetière pour chiens. C'était pour moquer Platon, qui lui se réunissait avec ses amis à l'Académie, le portique pour les stoïciens, ou le lycée pour les péripatéticiens, c'est-à-dire pour Aristote. Je rappelle que les péripatéticiens enseignaient en marchant.
Exactement.
C'est pour ça qu'on a appelé les péripatéticiennes des femmes qui marchaient sans forcément enseigner. Mmh. Encore que
ça dépend aussi de la clientèle.
Oui, absolument. On peut imaginer, effectivement, qu'il y ait des initiations de type philosophie.
Une figure connue
vous voulez rentrer chez vous,
de la littérature. Pardon. Il y a un autre chapitre, c'est le 9e. Moi, ça m'a parlé, compte tenu de ma formation universitaire, le citoyen. Et c'est très astucieux. Le cosmopolitisme, la République des chiens, on y revient. Mais ça, c'est la République de Zénon. Et puis, bien sûr, ou l'esclavagisme, un destin de navette, la politique d'Aristote. Là, on est quand même sur des grands textes, même. Hein.
Enfin, oui.
Vous, et à chaque fois, vous les prenez, vous les commentez, vous les... Voilà. Alors, j'avais une question qui était un peu générale. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir eu cette idée de la dispute. Vos textes, ils résonnent. R-A-I-S-O-2-N-E, ils résonnent entre eux. C'est-à-dire qu'ils s'envoient des ondes. Hein. Votre livre, il s'ouvre sous l'égide de Nietzsche, c'est pas surprenant, et de sa distinction entre l'apollinien et le dionysiaque. Est-ce que, pour vous, c'est l'opposition entre l'instinct de connaissance et l'instinct de vie qui définit l'histoire de la philosophie?
Oui. Absolument, c'est un plaisir de vous avoir comme lecteur. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on peut opposer. C'était Jules de Gautier qui a mis ça en évidence, qui était un Nietzschéen français du début du XXe siècle. Et de fait, on peut opposer ces deux instances. Ce sont les instances que Nietzsche oppose dans la première partie de son existence.
Oui, parce que vous distinguez, 1800... vous le dites bien, deux Nietzsche.
Oui. Ouais, oui, deux ou trois, mais au moins deux, on dira. 1872, le premier, enfin 2 janvier 1872, c'est-à-dire 71 pour l'écriture, mais la naissance de la tragédie. Et dans la naissance de la tragédie, moi je suis très wagnérien, vous avez parlé de tétralogie tout à l'heure, non, pas wagnérienne, j'aurais bien aimé que ce soit un peu wagnérien, mais c'est pas grave. Et donc,
on dira quand les quatre seront sortis.
Ah oui, oui, ben on verra ça, mais je vous dis, je vais pas tenir les quatre, je vais pas pouvoir me retenir. Et donc, il y a chez Nietzsche cette opposition entre l'apollinien et le dionysiaque, et il dit, l'apollinien, c'est le dieu, Apollon, c'est le dieu de la mesure, de l'ordre, du chiffre, de la comptabilité, et en face, il y a Dionysos, qui est le dieu de la vigne, des pampres, de la danse, du chant, de l'ivresse, etc., etc. Alors, il ne les oppose pas tout le temps, il dit simplement que ce sont deux tensions qui permettent l'histoire. Et ma conception de l'histoire est plus nietzschéenne, évidemment, que marxiste ou marxienne. Et donc, j'ai voulu commencer en opposant les choses comme ça, qui sont effectivement un chapitre apollinien, un chapitre dionysiaque, et comme ça jusqu'au bout. Et je me suis dit, est-ce que ça tient la route jusqu'au XXe siècle? En fait, oui et non. C'est-à-dire que l'apollinien et le dionysiaque se transforment en bien et mal avec le christianisme. Et on verra que ce qui est apollinien deviendra le bien des chrétiens, et ce qui est dionysiaque deviendra le mal des chrétiens. Puis après, on n'aura plus le bien ou le mal, on aura le bon et le mauvais. Ça se sent dans les chapitres suivants, quoi. Et puis après, on aura par-delà le bien et le mal, par-delà le bien et le mauvais, le nihilisme aujourd'hui où tout vaut tout. Et
la déconstruction, etc.
Voilà.
Le deuxième chapitre, qui s'appelle la réalité, là, vous avez d'un côté l'atome, hein, le rire matérialiste, dites-vous, avec le grand système du monde. Donc là, on est véritablement dans ce qu'on peut appeler l'atomisme de Démocrite. Hein. Et puis, où l'idée, le quelque chose invisible, le Phédon de Platon. Et poser la question, j'ai préparé la vérité avec Pierre Coutel, hein, qui n'est pas là, mais qui pense bien à vous. Ce débat, le cas de l'atomisme de Démocrite d'un côté et ceux qui considèrent que le monde voudrait tel qu'il soit, comment vous vous situez? Rappelez-nous comment vous vous situez dans cette dialectique-là. Mmh. Et pourquoi vous êtes plutôt du côté de la description de la réalité?
De la description atomique de la réalité, oui, plutôt que de la description idéale, oui, et idéaliste de la réalité, oui. Il y a une belle image chez les premiers matérialistes, que sont Leucippe et Démocrite, et l'image se retrouvera par la suite chez Épicure et chez Lucrèce, je parle chronologiquement, et c'est un peu l'histoire de l'atomisme dans l'Antiquité. C'est l'image d'une fenêtre fermée, tout le monde a un peu connu ça de l'été. Vous avez une fenêtre fermée avec les persiennes et les jalousies, et on voit les raies de lumière. Et dans les raies de lumière, on voit la poussière qui danse. Et à partir de cette belle image poétique, les philosophes de l'Antiquité, les atomistes, disaient « le réel, c'est ça ». Si vous n'avez pas la lumière, vous ne savez pas qu'il danse ses particules dans l'air, mais elles sont tout de même là. Et ils disent atomique, au sens étymologique, c'est ce qui ne peut plus se couper. Donc vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous retranchez, puis à un moment donné, vous êtes atomique, c'est-à-dire vous ne pouvez plus... C'est la particule élémentaire. Et donc la particule élémentaire, elle se structure, elle se constitue pour fabriquer de la matière, et il n'y a que de la matière. Et il n'y a donc que des atomes. Et donc c'est une physique extrêmement simple qui est en même temps à l'origine de la disparition de toute métaphysique. Mmh. C'est-à-dire que si nous ne sommes que matière, la mort n'est jamais que décomposition de notre propre agencement matériel. Donc il n'y a pas à la craindre. Avant la mort, nous étions déjà matière. Après, de notre vivant, nous sommes matière. Après notre mort, nous serons encore matière. Ce sont simplement des changements d'agencement de matière. C'est-à-dire que si tout est matière, alors les dieux peuvent bien exister, mais ils sont aussi matériels. Et donc, il n'y a rien qui soit immatériel dans le réel. Donc, tout se réduit à des agencements d'atomes, à des combinaisons d'atomes. Et on voit bien aujourd'hui, avec l'infiniment grand ou avec l'infiniment petit, avec la physique quantique ou avec la théorie de la relativité, générale ou restreinte, que globalement, les intuitions des atomistes se trouvent vérifiées. Mmh. Et plus on pénètre aujourd'hui dans les sciences, plus on vérifie, on valide cette hypothèse poétique au départ. Et puis en face, vous avez un Platon qui nous dit « Ah, mais rien de tout ce que vous voyez n'existe. Si vous pensez que nous sommes réels, que vous êtes réels, que tout, vous vous trompez totalement. Tout ça est illusion. La seule chose qui existe, dit Platon, c'est l'idée. » Et alors on lui dit « Mais c'est quoi l'idée, très exactement ?» Et nous avons un peu parlé tout à l'heure de mes vieux maîtres qui étaient, et là encore, heureusement que le masculin l'emporte sur le féminin, parce que c'était Monsieur Gerfagnon et Madame Goyard, mon vieux maître et ma vieille maîtresse. Et donc, Madame Goyard qui me disait, mais moi j'ai alors écrit quantité de livres, hein, et c'était une femme que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup aimé aussi, et elle me disait, ah, mais vous savez, je n'ai jamais compris ce que c'était que l'idée de Platon. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et je me souviens que quand elle m'a dit ça dans son bureau, je me dis, comment peut-elle me dire une chose pareille? Mais globalement, quand on a lu l'œuvre complète, et qu'on a lu même Crayon à la main, le Parménide, ou des textes un peu hard sur la question de l'idée, est-ce que l'être est, est-ce que l'être n'est pas, est-ce que l'être qui est peut ne pas être, quel est le statut du non-être dans l'être? Enfin bon, on sort du livre là, et on se dit, mais c'est quoi ces idées-là? Ça n'existe pas. C'est Platon qui rêve en disant que l'illusion, c'est le réel, et que la réalité, ce serait des idées qui n'existent pas, qui sont juste posées. Par exemple, si nous nous aimons d'amitié, l'amitié réelle avec deux personnes n'existe pas. Il existe l'idée d'amitié, nous dit Platon, qui n'a même pas besoin d'amis pour exister. On imagine un Poutine qui fait exploser la totalité de la planète, il n'y a plus rien sur la planète, l'idée d'amitié persiste, nous dirait Platon. On se dit, mais c'est pas possible, une idée, elle est au service du réel, et c'est pas le réel qui est au service de l'idée. Et donc, en opposant les deux, c'est-à-dire le matérialisme de Démocrite à l'idéalisme de Platon, je lui dis, mais où êtes-vous, vous, qui m'écoutez, qui auriez pu m'écouter, ou qui m'écoutez là, êtes-vous matérialiste, ou êtes-vous idéaliste? On voit bien que les croyants, ceux qui croient en Dieu, sont du côté de Platon. Par la suite, on verra bien, Nietzsche dit, le christianisme, c'est un platonisme pour les pauvres. Oui. Et donc,
un platonisme pour le peuple.
Alors pour le pauvre, pour le peuple, pour la populace, ça dépend des traductions qu'on donne.
D'accord. Ouais.
Et donc, oui, quand vous pouvez dire qu'existe quelque chose qui n'a de réalité, enfin, ça dépend pour qui, mais que conceptuel, que idéal, bah, vous dites, je sais pas, vous pouvez croire effectivement que Dieu existe, qu'il vous attend, qu'il voit ce qu'on fait, qu'il va nous punir, qu'il va nous sauver, qu'il va nous damner, qu'il va, etc., etc. Donc chacun ou ceux qui pensent aujourd'hui qu'on peut mourir, voir une espèce de tunnel, de la lumière au bout, qu'on revient, etc. Tous les gens qui sont des tenants de cette thèse, de cette hypothèse, sont des platoniciens, évidemment. Parce qu'il n'y a aucun matérialiste qui nous explique que, oui, bien sûr, il se passe ceci, il se passe cela, et qu'il y a un autre monde qui donne son...
Michel, est-ce qu'on peut dire que cette opposition entre le réel et l'idée, est-ce que ça détermine, en quelque sorte, toute l'histoire de la philosophie occidentale?
Ah oui, je crois. Je crois. D'ailleurs, il y a un débat que j'aborderai dans le volume suivant, qui est celui des nominalistes et des réalistes.
C'est ça.
Et donc, il y a des gens qui pensent que... il y a des réalités aux idées et d'autres qui pensent que non, ce sont juste les idées, ce sont juste des espèces d'outils nécessaires pour penser, mais qu'il n'y a pas une autonomie de l'idée. Et donc, ce sont des débats très techniques de philosophes médiévaux. Mais j'essaierai de rendre ces débats un peu lisibles et clairs, parce que c'est quand même très très austère. C'est fabriqué par des gens.
Ça va impacter aussi, je crois, dans le christianisme.
Mais bien sûr,
toute une série de ruptures d'ailleurs. Hein,
bien sûr.
Sur l'existence ou pas. Dans le mythe trinitaire, par exemple.
Absolument. Oui. Et même plus loin. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une gauche, par exemple, qui pense que les idées sont plus vraies que le réel. Si on leur dit, mais le réel, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Non, non, il y a des principes, il y a des idées. Vous dites, non, ça n'a pas le communisme. Prenez le mot communiste, la réalité communisme, pardon, la réalité communiste, et demandez à Badiou en disant, mais il y a quand même eu 100 millions de morts, et même 200, dit François-Olivier Gilbert dans le livre que je suis en train de lire là tout de suite. Et il dit, mais ça n'a rien à voir avec l'hypothèse communiste, qui est une idée qui n'est pas impactée, j'aime pas le mot, qui n'est pas concernée par la réalité du Goulag, par la réalité du Laogai, par la réalité de, je sais pas, de Cuba, du Vietnam, de Pol Pot, etc. Il y a une idée, elle est formidable, c'est le communisme. Et si vous dites, mais oui, mais il y a une réalité communiste, elle n'est pas terrible, je dis, mais c'est pas vrai. C'est une idée de capitaliste, c'est une idée de bourgeois, c'est une idée de contre-révolutionnaire. Ben, on dit non, ça n'a pas marché. Juste à chaque fois que ça a eu lieu quelque part, ça n'a pas fonctionné. Et si le réel pouvait concerner un peu l'idée, est-ce que vous ne pourriez pas revoir un peu vos idées à la lumière du réel? Et ben, quand vous dites une chose comme celle-ci, c'est que vous êtes un fasciste aujourd'hui, un type d'extrême droite, voilà. Donc vous voyez que ce vieux débat, il traverse l'histoire des idées, et comment le projet que j'ai de faire une histoire philosophique de l'Occident montre que là où nous nous croyons les plus indemnes de civilisation judéo-chrétienne, nous sommes en plein dedans. Mmh. Et qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas, sur l'intelligence artificielle, j'y suis pas, hein, mais enfin, si je vais jusqu'au bout, la question de l'intelligence artificielle posera la question de la réalité du virtuel. Et donc nous retrouverons la réalité de l'idée platonicienne ou des atomes de Platon, etc., etc.
Vous dites de Kyoto.
Les atomes de Démocrite, pardon.
Dans, je crois, j'ai vu dans une interview que vous avez donnée, le fil d'Ariane de mon travail est celui de la démythologisation, de la démystification. Et vous dites, j'ai publié en 1991 un éloge de Diogène le Cynique, dont l'une des épitaphes était « Il dénuda nos chimères ». In fine, je crois que ça aurait été mon programme de travail, du moins ma tension, mon idéal. Et vous dites de Diogène, vous avez cette belle formule, qu'il est le philosophe de la douceur âcre et des blessures humaines.
Je dis ça, moi
de... je crois.
Je l'écris.
Oui, oui, oui.
C'est pas mal.
Oui. C'est pas mal,
oui. Oui, oui, parce oui. Que je... Des fois, on dit, je crois que c'est Raymond Aron qui disait « Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font.
Oui, » oui, oui.
Et on peut dire ça de tout un chacun. C'est-à-dire, chacun fait son histoire, mais ne sait pas quelle histoire il fait. Et quand j'ai commencé à écrire, je suis poussé par une puissance, par ce que Bergson appelait l'élan vital, un concept magnifique. Mm-hmm. Et on est poussé, on écrit, on travaille, et puis un jour, on se retourne, on se dit « Mais j'ai fait quoi? J'ai écrit quoi? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre le ventre des philosophes et puis ce travail ?» Par exemple, là, on ferait, il a beaucoup changé, il a dit ceci, puis il dit le contraire, il était comme ceci, maintenant il est comme cela. Je me dis, mais détrompez-vous, il y a vraiment un fil d'Ariane chez moi qui est la démythologisation, la démystification, la destruction des mythes. Alors parfois c'est gros, je prends la psychanalyse, boum, je cogne. Parfois je prends autre chose, ça peut blesser hélas des gens qui peuvent croire en Dieu, mais je dis, ben, regardez Jésus qui a une existence conceptuelle mais qui ne peut pas avoir eu d'existence historique, où je reprends un certain nombre de moments comme ça dans l'histoire, Sade, en disant, mais arrêtez avec cette espèce de folie sadienne que vous avez à Saint-Germain-des-Prés en estimant que ce type est susceptible d'être aimé ou je sais pas quoi, enfin, c'est détestable, c'est un type détestable, c'est un violeur en série, c'est un abuseur sexuel, c'est quelqu'un qui a été condamné pour des crimes sexuels, qui a détesté les femmes, qui n'a jamais été un féministe. Enfin, et là, si vous touchez à des mythes qui sont éventuellement des mythes de gauche, du genre Marx est un mythe de gauche, Freud est un mythe de gauche, Sade est un mythe de gauche, et d'un seul coup, les gens disent « Ah ben, regardez, l'extrême droite. » Non, parce que je détruisais aussi, avec le ventre des philosophes, le mythe de la philosophie qui doit être platonicienne. Les idées, pas de corps, pas de chair, vous avez un rapport avec les idées pures, les idées sont dans celles des idées, un philosophe, c'est un cerveau qui est au contact direct. Et pas du tout. Si un philosophe, c'est d'abord un corps qui est en situation dans une vie privée, mais également dans une époque. Et c'était déjà ça. Et donc là, par exemple, c'est cette espèce de mystification contemporaine qu'il n'y aurait pas d'Occident, qu'il n'y aurait pas de judéo-christianisme, que ça ne voudrait rien dire, que ce serait une imposture. Je repars là-dessus en disant « Mais non, c'est un mythe. » Et essayons de détruire les mythes. Mythe d'un Sartre, très grand philosophe de la liberté, etc. Pas du tout. Donc oui, je pense qu'il y a un point commun à tout ce qui peut paraître hétérogène. Même quand j'écris des recueils de poèmes dont personne ne parle, j'ai écrit une dizaine de recueils de poésie, je n'écris pas une poésie malarméenne. Je dis arrêtez de croire que plus c'est abscon, plus c'est profond. C'est pas parce que ça ressemble à du Mallarmé que c'est du Mallarmé. Et donc, moi, j'aime bien retrouver l'esprit des textes anciens par exemple, la Bible, qui est un grand texte poétique. On peut même, si on dépolitise le Coran, dire qu'il y a dans le Coran un souffle poétique. Et si vous prenez la Bhagavad Gita, si vous prenez les lois de Manu, enfin, il y a plein de textes qui sont écrits avec un grand souffle poétique. Et quand vous prenez les textes, les premiers textes, ceux qui nous restent, l'épopée de Gilgamesh ou des choses comme ça, il y a un souffle poétique et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas du tout Mallarmé. Donc je le fais pas non plus comme ça, en disant je suis un briseur d'idoles et j'adore ça. C'est simplement que je me découvre, me retournant sur moi-même, en me disant, bah, globalement, si ça donne l'impression de partir dans tous les sens, c'est peut-être parce que on n'a pas vu qu'il y avait derrière tout ça un travail libertaire, je dirais, si on veut retenir de ce mot la puissance originale et originaire, c'est-à-dire le désir de trouver la liberté, enfin du moins d'utiliser les libertés au secours ou au service de la vérité.
Dans le chapitre 6, c'est un sujet qui, évidemment, un sujet presque à la base de la philosophie, le bonheur. Et alors là, vous mettez en résonance, pour reprendre mon terme de tout à l'heure, le plaisir de point danser habillé en femme. C'est les fragments d'Aristippe de Cyrène. Et puis, c'est pas versus, parce qu'on peut pas le dire comme ça. C'est, vous le mettez en correspondance avec la vertu. La puissance de la volonté, les Tusculanes de Cicéron. Ah, c'est audacieux quand même, parce que je vous laisse en parler, parce que c'est quand même
Oui, j'aurais pu opposer Aristippe et Épicure.
Oui, ça semblait presque plus logique.
Oui,
mais alors pourquoi c'est pas Cicéron, parce que Cicéron, c'est pas forcément celui qu'on attend.
Ah non, c'était mon intérêt aussi. Soit de sortir des auteurs de la ligne dans laquelle on les inscrit, dans la ligne en disant voilà, Cicéron, ce sont les Philippiques, ce sont etc. Moi j'aime beaucoup les Tusculanes, moi j'aime beaucoup parce que c'est la vieille façon d'aborder Cicéron, c'est-à-dire ce serait le latin pur qu'on aurait écouté dans les qu'on aurait enseigné dans les écoles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le philosophe chez Cicéron. C'est pas la rhétorique, c'est pas la pureté du latin. J'ai pas les moyens de juger de la pureté du latin de Cicéron sur le latin d'avant, le latin d'après, etc. Mais je me dis, il y a un grand moraliste. D'ailleurs, j'avais été admissible à un concours et je suis tombé parce que j'avais défendu la philosophie de Cicéron devant un enseignant qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui me disait que ma lecture de Cicéron n'était pas la bonne. C'était la mienne, c'était juste pas la sienne. Mais c'est celle que je repropose ici en disant mais il y a une philosophie de Cicéron. D'abord parce que je pense que les Romains ne sont pas des Grecs qui n'arrivent pas à la hauteur de l'idéal grec. C'est simplement des gens qui n'ont pas voulu faire la même chose. C'est pas qu'ils n'en ont pas les moyens, c'est qu'ils estiment que les Grecs ne sont que dans un monde d'idées et que ce qui les intéresse, c'est le réel. Il faut faire des paysans, il faut faire des citoyens, il faut faire des soldats, il faut pas faire des efféminés qui jouent de la flûte avec, etc. S'ils trouvent que les Grecs sont des efféminés, et à Rome, on n'a pas le désir d'être grec, on a le désir d'être romain. Donc on a le désir d'être concret. On fait pas une théorie de l'amitié en disant que les amis n'existent pas, mais seule l'idée d'amitié existe. On dit, mais c'est quoi un ami? Est-ce qu'on peut être ami avec une femme quand on est un homme? Est-ce qu'on peut être ami avec un pauvre quand on est riche? Est-ce qu'on peut être ami avec un vieux quand on est jeune? Est-ce qu'on peut être ami quand on est intelligent avec quelqu'un qui ne l'est pas? Quand on est cultivé avec quelqu'un qui ne l'est pas, etc. Et là, chacun s'est dit, ah, mais ça m'intéresse, ça me concerne, moi. Plutôt que de se dire, l'amitié que j'ai avec telle personne, quel type de relation entretient-elle avec l'idée d'amitié, etc. Ça, on peut le faire, ça fait des jolies dissertations de philosophie. Mais chacun doit pouvoir se dire, tiens, moi, avec mon ami, dans quelle relation suis-je? Et donc, les Romains sont des gens qui ont le souci de penser concrètement, réellement.
On dirait des pragmatiques aujourd'hui.
Oui, des pragmatiques, des empiriques, des gens qui, effectivement, ne font pas d'effet. C'est la même chose avec la sculpture. C'est-à-dire que quand on voit... on voit la sculpture grecque, on se dit, mais oh, quel corps! Enfin, quand vous avez des garçons ou des filles, vous dites, mais c'est la pureté absolue du corps. D'abord, il faut imaginer qu'il n'y a que les crétins du wokisme aujourd'hui qui disent, ah, c'est le triomphe du corps blanc, etc. Pas du tout, c'est du marbre et le marbre était peint. Donc, les sculptures à l'époque, la peau elle est rose, les yeux ils sont bleus, les cheveux ils sont blonds, enfin, etc. Et donc, il s'agit pour les Grecs de magnifier la pureté d'un corps qui n'existe que pas très longtemps chez chacun. On a tous été beaux quand on avait 15 ans, 16 ans et qu'on était filiforme sur un poil de graisse, etc. Les hommes, les filles, les garçons, etc. Ça dure pas très longtemps. Et puis après, on a le corps qu'on a. Et chez les Romains, c'est pas du tout ça. On vous montre tel que vous êtes. Si vous avez, j'étais il y a pas très longtemps à Rome, et dans la galerie des philosophes, où vous avez ben justement des bajoux, des calvities, des boutons, des trucs comme ça, parce que quand on représente Cicéron, c'est le petit pois, hein, donc on le représente avec sa verrue, non pas parce qu'ils sont incapables de faire des belles sculptures, les Romains, simplement, ils veulent représenter fidèlement le réel. Les Grecs représentent l'idéal, du moins tel qu'il imagine. Les Romains sont dans le pur concret. Donc, je reviens à Cicéron en disant qu'effectivement, il y a une vertu chez les Romains. Moi, j'aime beaucoup la vertu romaine. Je me sens un Romain perdu dans mon siècle, hein, à tout vous avouer. Et pas un Romain de la décadence. Je suis pas un Romain de l'Empire. Je suis un Romain de la République, plutôt de Caton. Moi, j'adore Caton. Et la vertu des Romains, elle m'intéressait beaucoup plus que la vertu d'Épicure, qui lui dit le plaisir, c'est dans la réponse positive au désir naturel et nécessaire. C'est-à-dire, j'ai faim, je coupe la faim avec une petite tartine de pain, j'ai soif, je coupe ma soif avec un verre d'eau, top.
Oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on a tendance à dire c'est un épicurien,
oui,
on pense que c'est un gros fêtard,
absolument,
mais c'est pas drôle le régime,
c'est pas drôle,
minceur d'Épicure,
non, hein, pas du tout. Voilà.
Alors, et c'est un hédonisme de la 16 quand même,
c'est ça, mais ouais, parce qu'il avait le corps qui n'allait pas bien, c'est ce que dit Nietzsche dans la préface au Gai Savoir. Il dit on a la philosophie de sa propre personne. Épicure est un personnage qui n'allait pas bien physiquement, qui avait la maladie de la pierre et qui pouvait pas se permettre des orgies, et voilà, ce qui n'est pas le cas de Lucrèce, même si on sait pas grand
comment ça se fait qu'on a transformé le mot pour dire c'est un épicurien, c'est un bon vivant. Comment
ça s'est fait ? Cicéron qui permet cette infamie, parce que à l'époque, entre César et les opposants à César, des oppositions politiques pour le coup,
Pompée,
César se réclamait de l'épicurisme, et donc, comme d'autres se réclamaient du stoïcisme, il fallait dire que c'était des gens détestables qui ne pensaient qu'au ventre, qu'à la jouissance, d'accord, etc. Donc, c'était une façon de stigmatiser les pourceaux d'Épicure.
D'accord.
Et je me suis intéressé à, justement à cette question-là. À partir de quand les appelle-t-on pourceaux et pour quelles raisons et comment, etc. Et j'ai cru trouver, je pense que ça peut fonctionner, mais la réponse chez Platon, je crois que c'est dans le Timée, mais je ne suis plus très sûr du dialogue. Non, c'est dans le Phédon. Et Platon dit à un moment donné, mais le porc, il a son groin comme ça dans la terre. Et puis de toute façon, la configuration anatomique du porc fait qu'il n'est que soucieux de la terre. Il ne peut pas lever la tête, il ne peut pas voir le ciel. Et donc un pourceau, c'est pas seulement le cochon qui est dans la fange, qui est dans la boue, etc. C'est aussi l'animal qui, physiologiquement, ne peut pas regarder le ciel des idées. Mmh. Et donc, comme vous ne pouvez pas regarder le ciel des idées, vous êtes contraint à mettre le nez dans la boue, etc. Et donc les Romains opposent les épicuriens, qui sont justement des fêtards, qui sont des bafreurs, etc., aux stoïciens, qui, eux, sont des hommes de vertu, sont des hommes de civisme, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on stigmatise les épicuriens comme des pourceaux. Ajoutez à ça que, quand le christianisme arrive, évidemment, ils se font fort, les pères de l'Église, de nous dire que, bien sûr, les épicuriens sont des pourceaux. Et il fallait bien détruire ces gens-là qui nous disaient que tout était matière. Si tout est matière et si tout est atome, qu'est-ce que vous allez faire de l'Eucharistie ?
Oui.
Qu'est-ce que vous allez faire de la présence du corps réel du Christ dans l'hostie ? Qu'est-ce que vous allez faire de la résurrection ? Qu'est-ce que vous allez faire de la résurrection de la chair ? La résurrection de Jésus, mais aussi la résurrection de la chair. Qu'est-ce que vous allez faire du corps glorieux ? Comment est-il constitué, le corps glorieux qui va renaître quand Jésus reviendra ? Et donc, évidemment, Démocrite, ça marche pas. Épicure, ça marche pas. Si vous revenez sous forme atomique.
Alors, vous opposez dans le chapitre qui s'appelle « Le plaisir », l'ascèse, donc étouffer ses désirs, hein, la lettre à Ménécée d'Épicure, à de la nature des choses de Lucrèce. Vous rendez hommage d'ailleurs à la très belle traduction qui a été faite par Bernard Combeau aux éditions Mola,
oui,
précise, en fait vous dites où la jouissance, la douceur matérialiste, le matérialisme peut avoir une douceur.
Ah oui. D'abord, il y a une belle image. D'abord, Bernard Combeau est quelqu'un que Denis m'a fait rencontrer. Et je remercie Denis de me l'avoir fait rencontrer. C'était un fou génial. Il était inspecteur général de latin grec et qui, un jour, a fait pour Denis une édition d'Ozone, poète bordelais, en établissant le texte et en faisant une traduction respectueuse de la métrique romaine, qui est hyper technique. C'est vraiment une performance intellectuelle. Et quand il a fait ça, je lui ai dit, mais écoute, moi j'aimerais bien. Alors, le poème de Lucrèce, enfin, Lucrèce a écrit un poème. Mmh. Et aujourd'hui, la plupart du temps, quand on travaille sur Lucrèce, on travaille sur un texte en prose. Et parce qu'on n'a pas respecté la métrique. Et quand parfois il y a eu une métrique, c'était de l'alexandrin du 19e siècle. Vous pensez bien que quand vous passez le texte de Lucrèce à la moulinette de l'alexandrin, on n'est plus du tout susceptible d'être compris, Lucrèce. Et je dis à Bernard, peut-être pourrais-tu me faire quelques traductions dans ton génie, là, de quelques pages de Lucrèce, qui est mon philosophe préféré. Il y a des pages. Il me dit, envoie-moi ce que tu veux que je te traduise, etc. Et je lui envoie quelques vers, je sais pas, peut-être trois pages et de l'un des livres de Lucrèce. Et paf, il me traduit le livre entier. Je dis, mais comment t'as fait? C'est quand même pas possible. Quoi. C'est... Je dis, mais tu pourrais faire une traduction intégrale. Il me dit, ouais, si tu veux.
C'est avant ChatGPT, ça.
Oui, mais non, lui, il a fait vraiment... Je sais pas si ChatGPT pourrait faire ça. Enfin, faudrait demander, mais...
Faudrait que vous essayiez.
Ouais, ouais. Mais, et il a fait une édition incroyable. Et Denis a dit, on publie, on fait cette édition-là. Et Denis a fait une magnifique édition d'un texte formidable et qui, pour le coup, est traduit avec... Alors, c'est quelqu'un qui aurait lu la totalité... Bernard, qui aurait lu la totalité, ce qui était le cas, des poètes de l'Antiquité, mais qui aurait aussi lu tous les poètes du XXe siècle, et pas seulement, tous les poètes entre deux. C'est-à-dire qu'il y a parfois du Jacoté, il y a parfois du René Char dans certaines de ces formules. Et à chaque fois, vous pouvez toujours compter. Vous dites, eh bien, les pieds s'y trouvent. Et texte formidable. Donc merci, Denis, et bravo. Et puis, si vous voulez lire Lucrèce, allez voir cette édition.
Vous dites parce aussi que c'est un hédonisme du réel.
Oui.
Lucrèce.
Oui. Alors, Épicure...
Et qui détruit les fictions.
Ah oui. Ouais. C'est le grand, enfin, avec les cyniques, c'est lui aussi, il dénude les chimères. Il dit, mais le réel, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est de l'atome, c'est de la physique, c'est ceci, c'est cela. Sur la mort, sur l'amitié, sur une théorie des civilisations. Enfin, c'est un texte majeur que je lis, que je relis sans cesse depuis que j'ai 18-19 ans. Et donc, ce texte-là est écrit par quelqu'un dont on ne sait rien. Je sais pas qui c'était, Lucrèce. On a de vagues dates. On dit les chevaliers, qui le dit, quand, comment, on n'en sait rien. Et Bernard, avant de mourir, me dit, mais moi, avec les traductions que j'ai pu faire, j'ai plein de notes, je ferai une biographie de Lucrèce. Je dis, mais comment tu ferais ? Il me dit, mais il parle trop bien des bateaux, il parle trop bien de la technique de ceci ou de cela. Il me dit, il a été apothicaire, il a été marin, c'est sûr. Mais il a hélas pas pu...
Mais c'est quelle époque ?
Premier siècle.
D'accord.
Et donc, c'est un personnage dont on ne sait rien,
mais... Il est contemporain de Sénèque, un peu.
Pardon ? Oui, oui, oui.
Contemporain de Sénèque, oui.
Les dates exactes, c'est premier siècle avant. Hein.
Ah oui, donc c'est pas... Ah, pardon, oui, oui. Siècle pardon, avant. Oui,
oui, oui.
Non, parce que Sénèque...
Oui, parce que moi, je suis toujours après, dans le monde romain, donc...
Oui, c'est ça.
Et donc, il dit des choses de lui, Lucrèce, quand on essaie de chercher un petit peu. Et par exemple, Épicure dit, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des désirs naturels et nécessaires, boire, manger, etc. D'accord. Des désirs naturels et non nécessaires. La sexualité, par exemple, dit Épicure. Mais il dit la sexualité, on peut très bien vivre sans sexualité, sans obéir à sa sexualité. Donc, ça n'existe pas, la sexualité. Donc, on se retient, c'est trop de bazar, c'est trop compliqué, la sexualité, etc. Puis après, il y a les désirs non naturels et non nécessaires. Je veux la Légion d'honneur, je veux un poste à l'université.
Chez certains, c'est naturel et nécessaire.
Chez aucun animal n'a envie de la Légion d'honneur. Ils ont envie d'autre chose. Mais... Et donc, Épicure dit, le plaisir n'est jamais que dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Boire quand on a soif, manger quand on a faim, boire de l'eau, manger une petite tranche de pain. Elle dit, si vous voulez faire une petite fiesta un jour, un petit morceau de fromage. Donc, et puis alors, il dit, après, la sexualité, non. Et puis, les honneurs, les richesses, le pouvoir, la puissance, non, pas du tout. Et Lucrèce lui dit, mais il ne faut pas être prisonnier de votre sexualité. Je le dis dans mon vocabulaire, hein, c'est pas comme ça. Mais il dit, en gros, la sexualité, si ça vous prend, c'est une espèce de force qui menace débordement, et bien faites déborder, il y a des bordels pour ça. Si vous avez des désirs sexuels, allez au bordel, revenez philosopher tranquille, et puis ce sera très bien, quoi. Donc il n'est pas du tout dans la logique du ascétisme sexuel total. Moi, je dis, d'ailleurs, j'ai écrit des textes pour expliquer que l'ascèse épicurienne, elle s'est manifestée dans les premières communautés de moines chrétiens. Qui vivent ça, hein, qui mangent très peu, enfin des choses très simples, très simples, pas de sexualité, pas de etc., etc. Et les communautés, la règle de Saint-Benoît par exemple, elles sont très en relation avec des communautés épicuriennes de l'époque. Et chez les Lucrèce, c'est pas du tout ça. C'est la sexualité, ça ne doit pas être problématique. Donc allez dans les maisons pour ça, et puis ayez une femme. C'est la question de ce que j'appelle le couple ataraxique. Et quand il nous dit « aimez votre femme », c'est la femme qui va vous donner des enfants. C'est la femme qui va vous permettre de transmettre votre nom, à qui vous allez pouvoir donner votre patrimoine. C'est-à-dire le citoyen, il a besoin d'une femme, et qui est une épouse à la maison, qui, elle, laisse le mari aller divaguer et revenir, etc. Donc on voit bien que c'est pas du tout le même épicurisme. On a un épicurisme extrêmement austère chez Épicure, parce qu'il a le corps qui est celui-ci. Encore que, il est pas, on pourrait imaginer qu'il est aussi victime d'espèces d'obsession grecque de l'idéal ou de l'idée pure, alors que Lucrèce lui dit très précisément « Ne soyez pas prisonnier de la sexualité, c'est une chose extrêmement simple. » Et puis il a une vision très, je dirais, pneumatique de la sexualité, en disant « Si ça doit déborder, déborder, puis après retourner tranquille à la philosophie. » Parce qu'il y avait, chez les Romains, non pas une morale de la culpabilité comme chez les chrétiens, mais une morale de l'honneur. Et donc, un peu comme chez les Japonais aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de civilisation de la culpabilité chez les Japonais, mais une civilisation de l'honneur. Et il y avait chez les Romains une méconnaissance totale de la culpabilité. Il y avait une civilisation de l'honneur, et puis vous pouvez vous déshonorer. Il y a des choses qu'on faisait pas. Pascal Quignard, par exemple, a écrit dans Le Sexe et l'Effroi, des choses très intéressantes sur la sexualité chez les Romains, où il nous dit que l'homosexualité, c'est pas bien ou pas bien, comme on pourrait le penser, comme on pouvait le penser jadis, comme certains le pensent encore aujourd'hui. Mais les Romains disaient, mais la sexualité, dans l'homosexualité, il y a un actif, il y a un passif. L'actif, c'est bien, le passif, c'est pas bien. Donc on voit bien que les catégories ne sont pas du tout les mêmes. Et donc il s'agissait, quand on est dans l'activité, quand on est dans la décision, quand on est dans la puissance, quand on est dans la possession, c'est bien. Quand on est dans la soumission, y compris sexuelle, évidemment, quand on est dans la passivité, c'est pas bien. Et donc, évidemment, entre la petite santé d'Épicure, je dirais, et puis ce que j'imagine être la grande santé de Lucrèce, mais en même temps la grande puissance de ce qu'était Rome, et de ce qu'était le civisme, la citoyenneté à Rome, on voit bien que ce ne sont pas du tout les mêmes épicurismes. Donc quand j'oppose le plaisir, là, j'aurais pu effectivement opposer Épicure à Lucrèce, mais je pouvais aussi, il fallait que j'utilise de toute façon Aristippe de Cyrène quelque part, et il y a un moment donné où on voit Aristippe de Cyrène qui lui est déguisé en femme, se parfume, ouais, et dit mais le plaisir c'est ça, c'est ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors après, on aurait pu dire qu'il y avait un plaisir catastématique et puis un plaisir cinétique, enfin comme on dit souvent à l'université, mais je voulais que ce soit plus parlant pour les lecteurs.
Alors un sujet qui est grave, et vous le traitez cette fois-ci, j'allais dire, par un détour, et comme disait un autre philosophe, l'intelligence est la faculté du détour, c'est le suicide. Et vous nous expliquez que vous avez été confronté à un problème. Mmh. C'est vrai que vous avez eu du mal à trouver un texte dans le bloc que vous appelez gréco-romain, ou gréco-latin, d'un opposé au suicide. Parce que finalement, dans la lettre, les lettres à Lucilius de Sénèque, bon, là, on est dans le mainstream, pardon, hein, comme on ne disait pas à l'époque, c'est la mort volontaire. Et puis, donc, le métier de vivre, vous appelez ça le devoir, le métier de vivre, vous êtes allé chercher du côté du livre de Job. Le livre de Job. Alors, expliquez-nous ce choix. Et pourquoi parce que c'est aussi une façon d'élargir, peut-être, dans le rapport à certains grands textes de la Bible. C'est un grand livre de la Bible.
Le suicide m'a beaucoup occupé quand j'avais 20 ans, un peu avant, un peu après. Non pas que j'ai été personnellement tenté par le suicide, mais parce que je me disais, mais bon, si le monde n'a pas de sens, quand on ne croit pas en Dieu et que le sens n'est pas donné par une transcendance, quel sens donner à ce monde et à sa propre existence? Et puis, il y a eu des raisons qui faisaient que j'avais une espèce de mélancolie avec tout ce que j'avais pu vivre dans mon existence personnelle, qui faisait que je me posais la question du suicide romain. Ça m'intéressait.
Et par exemple, Michel, mais il y avait aussi la lecture de Camus, peut-être, à cet âge-là, non?
J'ai pas été convaincu par le mythe de Sisyphe. Et quand j'ai écrit un livre sur Camus et que j'ai lu l'œuvre complète, j'ai évidemment relu. C'est pas son plus grand livre. Il y a quelques très belles formules, peut-être même la première phrase. La seule question philosophique qui mérite d'être posée, c'est celle du suicide. Et après, il y a des fiches. C'est un jeune Camus qui écrit le mythe de Sisyphe, mais je le défendrai toujours. Mais c'est pas un grand texte sur le suicide. C'est un texte fait de collages. C'est un peu comme l'homme révolté. Il n'a pas été normalien, agrégé, etc. On lui a pas appris à composer un livre de philosophie. Il est génial dans Nos. C'est un grand romancier avec la peste, avec l'étranger. Mais bon, je sauve les essais de Camus.
L'interrogation sur le suicide, elle est aussi générationnelle, on va dire.
Elle était personnelle à cette époque-là. J'avais beaucoup lu sur le suicide, et mon vieux maître, Gère Fagnon, m'avait donné d'ailleurs quelques conseils de lecture, notamment un Mazneff, le fameux Mazneff qu'on connaît aujourd'hui pour la pédophilie, que moi j'ai connu très vite et très tôt. Il m'avait dit n'allez pas lire Les Saloperies, là, sur les moins de 16 ans, etc. Je vous parle pas de ça, mais il y a un livre qui parle des Romains. Mazneff emporte les cendres de Monterland à Rome. Il disperse les cendres dans un endroit que je connais bien, enfin, je connais bien, parce que à chaque fois que je vais à Rome, je vais à cet endroit-là, mais Et donc, c'était cette façon de dire que la mort ne doit pas nous avoir, on doit avoir la mort. C'est pas la mort qui me prend, c'est moi qui la prends, quand je veux, quand je décide. C'était l'éloge de... C'est toujours ça qui m'intéresse, d'ailleurs, là-dedans. C'était l'éloge de la volonté. Je décide. C'est ce que disait Gère Fagnon. C'est une image qu'on trouve chez les stoïciens. Hein. Quand la pièce est enfumée, tu la quittes. Voilà. Vous êtes dans votre maison, la cheminée tire mal, il y a plein de fumée, vous ouvrez, vous sortez, etc. Si dans votre vie, la pièce est enfumée, eh bien, sortez. Non. Et c'est extrêmement simple. Parce que nous ne sommes pas encore dans le christianisme, évidemment. Le christianisme dit « Ah, mais la vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu, tu ne peux pas t'ôter ce qui appartient à Dieu, c'est une espèce de vol. »
Mais dans le livre de Job, c'est la même chose.
Alors, pour répondre à votre question, quand j'ai cherché des éloges des critiques du suicide, parce que les éloges du suicide, il n'y a que ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Et la seule critique, elle est chez Platon. Mais comme Platon, je l'avais déjà utilisé pour les idées, je ne pouvais pas le réactiver là-dedans, dans un chapitre, en disant il va réapparaître, parce que sinon, saint Augustin, dans le livre que je suis en train d'écrire, il apparaîtrait 10 fois. Mmh. Donc Augustin, je l'ai gardé là pour l'instant sur la question de la grâce, mais je pourrais l'utiliser sur d'autres sujets, mais il fallait que. Et donc, chez Plotin, à un moment donné, mais Plotin, je voulais l'utiliser pour autre chose, mais une petite critique, mais c'est pareil, c'est 3 lignes. On ne peut pas faire 20 pages uniquement à partir de 3 lignes. Et je me suis dit, mais après tout, dans la Bible, enfin dans l'Ancien Testament, il y a des textes, pas seulement la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres, mais par la suite, il y a des textes qui sont éminemment philosophiques, le Cantique des Cantiques, nous en avons parlé, l'Ecclésiaste, et puis le Livre de Job, qui sont 3 livres que je... Pas trop le Cantique des Cantiques, mais l'Ecclésiaste et le Livre de Job, ça aussi, ça fait partie de mes lectures de jeunesse, et je relis régulièrement ces textes-là. Et je me suis dit, mais... Le refus du suicide dans Job, c'est évident, c'est patent. Mais je me dis, est-ce que j'entre les textes de la Torah, du Pentateuque, est-ce que j'entre les textes de l'Ancien Testament, auquel cas... Et puis je me suis dit, comme ce sont des textes les plus philosophiques de ces textes religieux, que finalement c'est un dialogue avec Dieu, entre autres, je peux l'intégrer. Donc, faute de trouver un philosophe qui ait vraiment écrit un éloge... Une critique du suicide et qui est consacré à un traité ou 10 pages qui m'auraient permis de faire des analyses. Et je vous assure que j'ai cherché. Hein. Et il y a même un livre que, justement, mon vieux maître Gère Fagnon m'avait conseillé, que j'ai évidemment dans la bibliothèque depuis des années, mais sur la question du suicide chez les Romains, il y a tout. Tous les textes, tous les passages, tout ce qui est... Qui s'est suicidé, quand, comment, de quelle manière, avec des tableaux, machin, tel...
C'était une pratique qui était récurrente ?
Ah oui, absolument. Oui. Ah oui, c'est... Il y avait dans une civilisation de l'honneur, quand on perd l'honneur, une façon de racheter son honneur, c'est de se suicider. Voilà.
C'est une cause du suicide. Enfin, c'est là, effectivement, de racheter l'honneur. Mais ça pouvait être aussi, par exemple, lorsque le corps était dégradé, oui. On n'acceptait plus.
Oui.
Vous disiez, oui. On quitte la pièce.
Oui. Et ça peut être aussi parce qu'on n'aura pas été à la hauteur dans une situation particulière, sans forcément qu'on ait perdu son honneur, mais on n'a pas été assez amical avec son ami. Et qu'on estime soi-même que, etc. Très beau livre d'ailleurs que cet ouvrage avec ses tableaux qui justement disaient qui se suicidait, comment et pourquoi. Un chef qui avait perdu une guerre, par exemple, une bataille.
Voilà. C'est parce que je souris, pardon, pourtant ça s'y prête pas, mais dans le texte que vous écrivez sur le livre de Job, on a vraiment l'impression, à un moment vous dites avec de tels amis, parce qu'il y a ce dialogue avec les 3 amis, oui. Là. Vous dites, on n'a pas besoin d'ennemis, parce qu'ils sont quand même très...
Ah bah oui,
très copains contre, comme ça, oui. Avec lui, quoi, hein, oui. Moins qu'on puisse dire. Hein.
Juste une parenthèse pour dire que, par exemple, dans une civilisation romaine, quelqu'un qui aurait été directeur d'un musée dans lequel on aurait pillé des bijoux...
Parenthèse, ça, c'est une parenthèse.
Vous voyez, j'ai même pas besoin de finir. Hein.
Bon. Alors,
et peut-être même que la ministre de tutelle aurait pu aussi chercher un poignard et recouvrer un peu d'honneur perdu. Parenthèse fermée.
C'est cela. Alors, dans le chapitre sur la vertu, donc... Que vous consacrez à Cicéron, on en a parlé. Vous avez cette admiration pour la philosophie romaine. Et est-ce que je me trompe ou parce que finalement il y a même plus de textes de grec. Il y a dans ce que vous êtes dans votre casting. Non, vous avez fait un équilibre. Vous avez.
Alors j'ai pas compté là. J'ai simplement, vous savez, il y a un moment donné où ça se rétrécit quand on a utilisé les grands auteurs avec les grands textes et qu'on se dit bon, ceux-là ils sont déjà utilisés une fois.
Oui, parce que vous avez refusé encore une fois d'utiliser 2 fois.
Oui,
voilà. C'est ça. Voilà.
Donc des fois, vous vous retrouvez devant des auteurs mineurs ou avec très peu de textes. Et donc.
Il y a un chapitre, c'est le chapitre 10, sur la connaissance et la rhétorique, l'art oratoire vertueux. Vous dressez le portrait de Quintilien, qui a vécu donc vers 35, il est né vers 35 après Jésus-Christ, enfin après notre ère, on dit après Jésus-Christ, et il est mort vers 96, c'est ce qu'on dit, c'est pas très prévu, précis. Il était avocat, enseignant, poète, rhéteur, et vous faites un portrait fascinant de cet homme.
Moi, je n'avais pas lu Quintilien, je l'avais dans ma bibliothèque, mais c'est un homme qui est connu pour un traité de rhétorique qui a été un best-seller pendant 10 siècles. Et d'ailleurs, on a oublié la rhétorique aujourd'hui. Les gens qui parlent n'importe comment, c'est une espèce de robinet, ça coule, on l'arrête, on recommence, etc. Alors qu'à l'époque, on construisait son propos. Et il y avait vraiment des règles de construction, c'était très précis. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas de profession qui suppose la prise de parole à l'oral, qui n'ait été formée par la rhétorique. Et le cours de Quintilien nous est parvenu presque intégralement. C'est 4 volumes dans ma bibliothèque, c'est vraiment un texte extrêmement important. Alors les grammairiens, les linguistes s'en sont servis, parce que vous avez des choses sur les tropes, sur des trucs hyper techniques. Mais quand on est allé au-delà du technique, il y a une partie beaucoup plus intéressante qui est celle justement de l'art oratoire. Et puis il y a surtout cette partie que j'ai mise un peu en exergue, qui est le rhéteur comme philosophe, ou le philosophe comme rhéteur. C'est-à-dire l'art de parler, mais pas pour ne rien dire. Vous avez des sophistes qui parlent pour ne rien dire ou pour séduire le public. Là, il s'agissait de mettre de la morale dans l'art rhétorique. C'est-à-dire un sophiste ou un cynique sont des gens qui disent, Dupond-Moretti par exemple, je peux mentir, trahir, tromper, utiliser toutes les ficelles, je veux gagner et peu importe peu importe la morale. Même si je sais que je défends un criminel, je dirais qu'il n'a pas tué, etc. Chez Quintilien, pas du tout. L'art oratoire, qui est donc un outil dangereux, c'est une arme extrêmement tranchante, eh bien, elle ne doit pas être mise au service du vice. Et donc il y a derrière le rhéteur un sage, un moraliste, un homme vertueux, donc un philosophe. Et ça, je l'ai découvert. Je n'avais pas lu Quintilien avant. J'en avais entendu parler. Et pour moi, c'était la rhétorique ancienne. Donc voilà, si un jour j'avais eu besoin de voir un peu comment fonctionnait la rhétorique pour comprendre la construction d'un dialogue de Cicéron, je serais allé voir. Puis là, je me suis dit, mais il y a des choses là-dedans. Je suis sûr, j'avais parcouru, j'avais vu, j'avais lu des choses. Et j'ai été très, très heureux. Ça fait partie de mes bonheurs d'écriture de tomber sur quelques pages. Je vous dis, ça fait 1000 pages, quoi. Et là, d'un seul coup, 20 pages où vous dites un passage qui n'est jamais traité comme tel. C'est-à-dire que si vous tapez Quintilien sur un moteur de recherche, si vous allez voir dans des histoires de la philosophie, on insiste toujours sur la technique de la rhétorique, jamais sur l'exigence de moralité.
Et de responsabilité.
Quoi. Oui.
On termine par le chapitre 12, la souffrance. Alors, on sait que c'est un thème qui est pour vous extrêmement important. Vous avez un très beau chapitre consacré à Marc Aurèle et aux pensées pour moi-même. Et vous dites que c'est un livre qui vous a accompagné tout le temps. Il était dans les poches de votre treillis militaire quand vous étiez dans l'infanterie de marine, dites-vous, enfin, à faire vos classes à Auvours. Dans le labyrinthe de Marc Aurèle, il faut comprendre. Vous dites que c'est un livre d'Ariane à trois brins, un fil d'Ariane à trois brins. Un, connaître le réel. Deux, puis aimer le réel. Et trois, donc, devenir sage.
Je nietzschéise un peu Marc Aurèle, parce que c'est un grand désordre, les pensées pour moi-même. D'abord, ce type est empereur, donc il faut gérer la question du quotidien de l'Empire. Ensuite, c'est un soldat.
Puis quand on connaît votre rapport au pouvoir, ça...
Oui.
Et ça ensuite,
c'est un soldat. Oui, sauf que quand vous êtes philosophe et que vous êtes au pouvoir, c'est pas exactement la même chose. C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de tenir les deux. Et il tient les deux. Et donc, et il est le soir dans sa tente à prendre, disons, un papier, un crayon, et puis à dire, voilà, pensez pour moi-même. Je fais un travail d'introspection. Je dois ça à mon père, je dois ça à ma mère, je dois ça à mon maître, je dois ça. Le livre 2, formidable. Ce que l'on doit à machin, bidule, intel, les gens qui nous ont construits. Et puis, c'est dans le désordre. Et il y a des gens qui nous ont dit, oui, il y a un ordre, il suffit de voir dans l'écriture. C'est pas vrai, il n'y a qu'un immense désordre. Simplement, soit on peut faire une espèce de nettoyage en disant tout ce qui est là dans le désordre, moi je propose un ordre, et je propose cet ordre que les Nietzschéens ont compris, quoi. C'est-à-dire, je reviens sur cette idée, regardez le réel tel qu'il est, tâchez de savoir qu'il se répète, et puis consentez au réel, et vous aurez la joie. C'est ce que dit Nietzsche, qu'il appelle la mort fatie. Et donc je remets cet ordre dans les pensées pour les rendre plus faciles d'accès pour ceux qui voudraient les lire. Moi d'ailleurs, j'aimerais bien faire une... Enfin, faut pas que je le dise, parce qu'on va me le proposer, mais je veux dire, j'aimerais bien faire une édition, comme d'autres ont fait des émissions, des éditions des pensées de Pascal. Les pensées de Pascal, ils ont dit, les fragments, non, c'est pas, il n'a jamais écrit les pensées en disant, je fais des fragments. Il prenait des petits bouts de papier pour écrire des notes, puis un jour, il aurait écrit les pensées comme il a rédigé les provinciales. Ça aurait été de la prose, ça aurait pas été des fragments. Eh bien là, on peut imaginer peut-être que Marc Aurèle aurait pu écrire aussi, lui, quelque chose de plus développé, que ses notes auraient servi de pense-bête. Mais on organiserait ça en disant, ben voilà, le réel tel qu'il est, la nécessité de l'aimer tel qu'il est, la question d'éternel retour, la fatalité, la joie, le plaisir, etc. Donc j'ai donné cet ordre pour ce chapitre-là, en disant, lisez-le avec ce schéma dans la tête, et ce sera plus facile de lire ce texte. Mais bon, c'est vrai que il était dans mon treillis. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai beaucoup raconté, mais il était quand je me suis retrouvé à l'hôpital avec un infarctus. Il était là, non pas que je l'ai pris au départ, mais j'ai demandé à ce qu'on me l'apporte. J'ai fait un AVC il y a 4-5 ans, je ne sais plus très bien. Et j'ai demandé, mon éditeur m'a dit, je viens vous voir, voulez-vous quelque chose? J'ai dit, oui, je voudrais les pensées de Marc Aurèle. Et donc, il m'a emmené les pensées de Marc Aurèle. Et puis, j'ai dit, c'était quoi de Dumas, c'était le comte de Monte Cristo. C'était les Trois Mousquetaires. Et j'ai jamais lu ça, je voudrais bien. Et je n'arrivais pas, j'étais tellement en évap, je n'arrivais même pas à lire Dumas. Et donc je ne suis pas parvenu à lire, évidemment, les pensées pour moi-même. J'ai été 8 jours un peu, je ne vais pas dire entre la vie et la mort, mais enfin bon, c'était assez comateux. Et j'avais mon téléphone portable et j'ai cherché une lecture des pensées pour moi-même. Il y a quelqu'un qui a mis en ligne une lecture des pensées pour moi-même qui est gratuite. Et je me souviens que j'étais torse nu avec des tuyaux partout et que j'ai mis le truc et que j'ai posé ça sur mon thorax et que j'ai écouté. C'est quand même pas mal, Marc Aurèle. Il est quand même très juste et très
vrai. Alors, en conclusion, vous avez choisi de traiter le serpent de Plotin. Alors, je vais pas, comme on dit, divulgâcher d'où vient cette histoire du serpent de Plotin. Il faut que les lecteurs voient ça. Mais j'ai retenu un passage. Vous dites, la pensée gréco-romaine ne se réduit pas à la rationalité que Platon autoriserait en permettant à la philosophie de sortir du temps des mythes. Cette vieille lecture marxiste du mythe remplacée par la philosophie, d'Homère et Hésiode supplantée par Socrate et Platon, est une fiction. Il n'y a pas de miracle grec, car les philosophes proposés comme des modèles de rationalité ont aussi des penseurs structurellement marqués par l'irrationnel, le mystique, le religieux, pour tout dire, le déraisonnable. Ça, c'est une approche qui est tout à fait passionnante. Et après, vous dites, le christianisme emprunte à la pensée païenne quantité de thématiques, ça, on le sait. Mais vous dites, des catacombes cnoniennes, des origines à la puissante basilique Saint-Pierre, la philosophie gréco-romaine est mise à contribution. Ce bloc gréco-romain rend possible le bloc judéo-chrétien, dont l'ouvrage suivant racontera l'histoire, et d'une certaine façon, on se retrouve en septembre 2026, si j'ai bien compris, mais j'imagine avant.
La suite pour le prochain numéro.
Pour le tome 2, Michel, mais si je peux, on peut vous applaudir.
Merci beaucoup.